Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1976 sous le titre de Selfish Gene. Le gène égoïste est un essai de vulgarisation scientifique dans lequel l'éthologiste britannique Richard Dawkins reformule la théorie darwinienne depuis le point de vue des gènes. Son idée directrice est que la sélection naturelle favorise avant tout les réplicateurs capables de se transmettre avec efficacité, tandis que les organismes constituent provisoirement les véhicules de cette transmission. Le mot « égoïste » ne qualifie donc ni une intention ni une morale propre à l'ADN. Il désigne une logique de persistance différentielle des copies génétiques. Dawkins mobilise cette perspective pour traiter de la coopération, de l'altruisme familial, de l'agression, des stratégies reproductives et de la sélection sexuelle. Le livre introduit aussi le même analogue culturel du gène afin d'étendre le raisonnement des réplicateurs à la circulation des idées. Accessible mais exigeant, l'ouvrage expose une thèse influente, souvent discutée, qui a durablement marqué la biologie évolutive et la manière dont le grand public pense le vivant. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le gène comme réplicateur plutôt que l'individu comme centre de l'évolution, la proposition décisive de Dawkins consiste à déplacer l'échelle d'analyse. Dans une description intuitive de l'évolution, les individus semblent lutter pour vivre et se reproduire. Dawkins ne nie pas ce fait observable, mais soutient qu'il devient plus intelligible si l'on distingue les véhicules biologiques des réplicateurs. Les organismes naissent, se développent et meurent, alors que certaines séquences génétiques peuvent continuer d'être copiées à travers de nombreuses générations. La sélection naturelle favorise ainsi les variantes génétiques dont les effets contribuent, dans un contexte donné, à leur propre transmission. Cette formulation s'inscrit dans le prolongement des travaux de génétique des populations et d'auteurs tels que W.D. Hamilton et George C. Williams. Elle évite d'attribuer une volonté au gène. Dire qu'un gène est égoïste est un raccourci pour décrire les conséquences statistiques de la sélection sur les copies qui se maintiennent. L'organisme n'est donc pas présenté comme un simple objet passif, mais comme une structure complexe façonnée par des gènes dont la réussite dépend de leur coopération temporaire. Cette perspective permet surtout de poser avec précision la question centrale du livre : comment des comportements coûteux pour un individu peuvent-ils malgré tout favoriser la propagation des gènes concernés ? Deuxièmement, l'altruisme de parenté explique une coopération apparemment paradoxale. L'un des apports les plus marquants du livre est de montrer que l'altruisme comportemental n'invalide pas nécessairement une approche centrée sur les gènes. Dawkins définit l'altruisme en termes de coûts et de bénéfices biologiques. Un individu agit de façon altruiste si son comportement réduit ses propres perspectives de survie ou de reproduction tout en améliorant celle d'un autre. Or, les proches parents partagent une proportion de leurs gènes. Aider un frère, une sœur ou un descendant peut donc contribuer indirectement à la transmission de copies du même gène. Cette logique est associée à la sélection de parenté et au principe formulé par Hamilton, selon lequel le bénéfice pondéré par le degré de parenté doit dépasser le coût de l'aide. Le raisonnement explique pourquoi le sacrifice n'est pas forcément absurde à l'échelle évolutive, sans prétendre réduire chaque conduite animale ou humaine à un calcul conscient. Dawkins examine notamment les sociétés d'insectes, où la reproduction est concentrée chez quelques individus et où l'aide apportée aux apparentés peut être considérable. Il insiste aussi sur les limites de l'explication par le bien du groupe. Un comportement bénéfique à une population entière ne se maintient pas automatiquement si des individus tirant avantage de l'aide, sans en payer le coût, peuvent se multiplier. La parenté fournit alors un mécanisme plus rigoureux pour comprendre certaines formes de coopération. Troisièmement, la théorie des jeux éclaire les stratégies d'agression et de stabilité. Dawkins utilise la théorie des jeux pour analyser des conflits où la valeur d'un comportement dépend de ce que font les autres membres de la population. L'enjeu n'est pas d'affirmer que les animaux résolvent consciemment des équations, mais de comparer les conséquences évolutives de stratégies concurrentes. Le modèle du faucon et de la colombe illustre cette démarche. Une stratégie agressive peut procurer un gain lorsqu'elle rencontre des adversaires conciliants, mais devenir coûteuse lorsque les combats entre agressifs causent blessures ou pertes. Inversement, une stratégie toujours pacifique est vulnérable si elle laisse systématiquement les ressources aux concurrents agressifs. Une proportion de stratégie peut alors former un équilibre évolutivement stable une fois établi. Elle ne peut pas être facilement envahie par une stratégie rare qui ferait mieux. Cette analyse rompt avec l'idée simpliste selon laquelle la sélection favoriserait toujours l'agression maximale ou l'harmonie maximale. Elle montre que les coûts, la disponibilité des ressources et la fréquence des comportements modifient l'issue évolutive. Le livre applique ainsi une logique comparative aux rivalités, aux signaux de menace et aux compromis comportementaux. Sa portée est méthodologique autant que descriptive, il apprend à chercher quelles règles de comportement peuvent se maintenir dans une population. Plutôt qu'à coller aux animaux des catégories morales comme la bravoure, la cruauté ou la générosité. Quatrièmement, les conflits reproductifs révèlent que les intérêts génétiques ne coïncident pas toujours. Le point de vue du gène conduit Dawkins à examiner les tensions qui traversent la reproduction. Des individus liés ne partagent pas tous exactement les mêmes intérêts génétiques, même lorsqu'ils appartiennent à une même famille. Entre parents et descendants, par exemple, l'investissement dans un enfant peut entrer en concurrence avec les ressources disponibles pour d'autres enfants présents ou futurs. Entre frères et sœurs, l'accès à la nourriture, aux soins ou à la protection peut également créer des conflits, malgré leur parenté. Dawkins traite ces relations comme des problèmes de sélection et de compromis, non comme la preuve d'une hostilité permanente. La coopération familiale peut être favorisée parce que les apparentés partagent des gènes, mais elle n'efface pas les divergences liées à ce partage incomplet. Le livre aborde aussi la sélection sexuelle et les différences de stratégie reproductive, en s'intéressant au coût de production des gamètes, de gestation, de soins et de recherche de partenaires. Ces analyses ont contribué à populariser une lecture évolutionniste des comportements sociaux, tout en suscitant des débats lorsque ces schémas sont appliqués trop directement aux sociétés humaines. Leur intérêt durable réside dans la mise en évidence d'un principe simple : l'évolution ne produit pas une harmonie générale, mais des arrangements contingents entre intérêts partiellement convergents. La prudence est donc essentielle lorsqu'on passe de modèles biologiques à des normes sociales ou morales. En dernier lieu, le même propose une extension culturelle du principe des réplicateurs. Dans les derniers développements du livre, Dawkins introduit le terme même pour désigner une unité de transmission culturelle telle qu'une mélodie, une idée, une pratique, une formule ou une mode. L'analogie avec le gène ne signifie pas que la culture se réduit à la biologie. Elle sert à envisager comment certaines informations se diffusent, se transforment et persistent par imitation, apprentissage ou communication. Un mème réussit, dans ce cadre, lorsqu'il est repris et transmis efficacement, même si cette réussite ne coïncide pas avec l'intérêt biologique de ses porteurs. Cette dissociation est importante, les humains peuvent propager des idées coûteuses, inutiles ou contraires à leur reproduction, parce que les mécanismes de transmission culturelle possèdent leur propre dynamique. Dawkins suggère ainsi que l'évolution humaine ne relève pas seulement de l'hérédité génétique. Le concept a eu une grande postérité dans les discussions sur la mémétique et plus largement sur la diffusion des contenus culturels. Il demeure toutefois controversé. Les idées n'ont pas des frontières aussi nettes que les séquences génétiques, leurs copies sont souvent profondément modifiées et leur transmission dépend d'institutions, de significations et de rapports sociaux complexes. La valeur du mème dans le gène égoïste est donc surtout heuristique. Il invite à analyser la culture comme un système de circulation et de sélection d'informations sans confondre cette métaphore avec une théorie complète des phénomènes culturels. En conclusion, le gène égoïste s'adresse au lecteur qui souhaite comprendre une formulation majeure de l'évolution moderne sans entrer d'emblée dans la technicité d'un traité de génétique des populations. Il sera particulièrement utile aux étudiants en biologie, aux lecteurs de sciences humaines, intéressé par les origines des débats sur la sociobiologie et la psychologie évolutionniste, ainsi qu'aux curieux désireux d'examiner les mécanismes derrière coopération, parenté et conflit. Son principal bénéfice intellectuel est d'imposer une discipline de raisonnement, distinguer le niveau auquel un phénomène est observé de celui auquel la sélection peut être décrite. Cette précision rend moins mystérieux l'altruisme biologique et montre que les comportements ne se comprennent pas par des oppositions sommaires entre égoïsme et générosité. Le livre se distingue des introductions générales à Darwin par son choix d'un point de vue unique et systématiquement développé, celui du réplicateur. Il combine des exemples comportementaux, la sélection de parenté et des modèles de théorie des jeux dans une prose conçue pour le grand public. Il faut néanmoins le lire comme une intervention théorique influente plutôt que comme le dernier mot sur l'évolution. Les critiques du réductionnisme génétique. Les modèles de sélection à plusieurs niveaux, l'épigénétique et l'étude des environnements de développement ont enrichi les discussions ultérieures. Cette réserve ne diminue pas son intérêt, elle aide au contraire à apprécier pourquoi une métaphore aussi puissante a suscité tant d'adhésions, de corrections et de controverses. Si vous souhaitez soutenir Richard Dawkins, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.